qui concerne ce conflit du Val-Saint-Lambert, il se place dans un contexte de lutte défensive pour l'emploi qui avait commencé chez Anglo-Germain et puis qui ont continué notamment aux poêleries de Tamines. Et c'est à la suite de ces deux conflits-là, et notamment du second, que l'on a obtenu les gris majeurs, notamment, qui permettaient des licenciements moins scandaleux des ouvriers qui n'avaient que des préavis extrêmement courts et dont les préavis se sont sérieusement allongés. Urbain Destré m'avait déjà demandé de l'accompagner aux poêleries de Tamines, mais là ça a été un conflit relativement court, mais très actif, puisque c'était le week-end, un week-end où il y avait le 11 et le 15 novembre, enfin c'était cette période-là, le 11 novembre c'était avant le week-end et le 15 novembre c'était après, et nous avions, avec les ouvriers, nous avions organisé des contestations du type troubler les manifestations au monument aux morts du 11 novembre, arrêter les matchs de football le dimanche et foutre en l'air le Stadium à la cathédrale Saint-Aubin à Namur le 15 pour la fête du roi. Bon, ça avait provoqué la colère de Majeur qui était ministre du Travail à l'époque et qui nous avait reçu en nous disant que les Flamands, eux, étaient en grève depuis des semaines et que personne n'en parlait. L'esprit lui a dit, c'est ça l'efficacité wallonne. Bon, il était des milliers dans le textile, nous on était quelques dizaines là au poilerie de Tamines.
Et c'est dans quelle année cette année?
C'était 74, je pense. Hein. Mais c'était dans ce contexte-là et avant. Il y avait aussi l'IP, hein, qui avait eu beaucoup de retentissements. Et il y a eu d'ailleurs des problèmes. Quand nous sommes allés en France, on avait été invités à vendre des cristaux par la société des rédacteurs du journal Le Monde. Et alors il fallait savoir si la CGT et le PCF privilégiaient la solidarité internationale ou privilégiaient leur opposition à des occupations d'entreprises avec production sauvage, contre laquelle il s'était prononcé chez l'IP. Et compte tenu de l'attitude de la fédération de la FGTB liégeoise à l'égard de la CGT au niveau international, ils ont décidé de privilégier la solidarité internationale sur leurs principes anti-CFDT de l'époque, ce qui nous a valu d'être reçus à Renault Boulogne-Billancourt, par Ségui, par Marché, à l'Humanité, etc. En fait, tout ça faisant des boules de neige vers Mitran, Roquin, enfin bon, à Paris c'était assez amusant aussi. Nous avons donc occupé le Val-Saint-Lambert et on l'a fait pendant près de 6 mois. Avec la constitution d'un comité de grève qui était présidé par François Gilles, numéro 1 de la centrale générale FGTB, et ancien gamin porteur à l'arche au Val-Saint-Lambert. Porteur à l'arche, c'est ceux qui vont mettre du verre chez les verriers. Il était très, très fier, ce bon social-démocrate, de devenir patron de l'entreprise. Et une fois qu'il a été président du comité de grève, il a trouvé qu'il fallait faire des expériences contre le saturnisme, c'est-à-dire le plomb dont il y a beaucoup dans le cristal, qu'il fallait faire des choses. Bon, et ce qui nous a valu, au lieu d'un conflit de 15 jours, un conflit de 6 mois, parce qu'il n'avait pas du tout envie d'atterrir. Contrairement, nous on était en... Bon, c'était un rapport de force entre Destré et Jean Gol, qui étaient des copains de l'UNIF, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Forêt qui était là-dedans, le cabinet de Gaulle, et il y avait, je crois que c'était Bernard Marchand, là, le type qui est allé à la série W après, qui était aussi dans, et encore un autre, enfin bref. Ceci dit, donc on occupe l'entreprise, on décide de produire, Et tout de suite, ça a eu un effet terrible, parce que le vals à l'envers était quelque chose d'un peu mythique. Ça a été la douairière de la générale. Je veux dire, ils amenaient tous les gens qui voulaient faire des cadeaux là-bas, mais ils n'ont jamais, ils en ont fait un exemple d'archéologie industrielle, ils n'ont pas investi. Et cette cristallerie qui était la plus grande du monde, avec plus de 5000 ouvriers, enfin plus de 5000 travailleurs, pas seulement des ouvriers, avant 1914, bon, était là quelques centaines de personnes, et maintenant, on a du mal à la maintenir à 50 personnes, avec trop peu de monde d'ailleurs pour former des gens de valeur. Ce qui est un problème, on ne fait pas de la qualité sans un minimum de quantité.
Qu'est-ce qui a décidé de...
C'est Urbain qui a décidé...
L'autoproduction
de... Non, enfin Urbain avait décidé d'occuper, et il voulait en faire un exemple de contrôle ouvrier de cette entreprise. Il voulait sortir de l'entreprise, non seulement en sauvant le maximum d'emplois, Gaulle voulait ramener... Je ne sais plus combien on était exactement. Est-ce que c'était 600 ou est-ce que je me trompe légèrement parce que c'était 600 dans une phase antérieure, lors de la reprise par la région, par l'État et la région Duval, à l'époque où le secrétaire général du ministère économique Bayen se dirigeait, le Val notamment. Je crois que c'était 600, Gaulle voulait ramener à 80. Et je crois qu'on s'en est sorti à 400 ou quelque chose comme ça. Après 6 mois. Mais donc on a eu tout de suite, on n'a pas besoin d'organiser la solidarité, on a eu besoin de la canaliser, si je peux m'exprimer comme ça, parce que d'emblée, le bassin a réagi, le type venait de Cochrane d'ailleurs, en Cortés, pour visiter l'entreprise, pour apporter... Bon, les ouvriers étaient très contents, je veux dire, ils trouvaient que c'était la bonne manière de faire, d'autant plus qu'ils ne perdaient rien au niveau revenu. Donc c'est un conflit qui peut durer. Mais ceci dit, on détruisait son réseau commercial. Il faut quand même se rendre compte qu'en temps normal, ce n'est pas les ouvriers qui vendent. Les premières ventes...
Et les cadres n'étaient pas... Non, là, les cadres n'étaient pas...
Si, il y avait quelques cadres qui étaient avec les ouvriers, mais...
Mais pas les cadres commerciaux.
Si, même des cadres commerciaux. Mais ceci dit, les cadres commerciaux, bon, à la limite, si quelqu'un voulait acheter pour mettre dans une... Si un acheteur normal voulait quelque chose, on le livrait aussi, on n'allait pas le boycotter, c'est clair. Mais eux râlaient parce que eux on leur faisait de la concurrence déloyale, d'autant plus qu'il y avait un double phénomène dans les achats de cristaux, un phénomène à la fois de solidarité et aussi la conviction d'essayer de faire une bonne affaire, de faire du bénéfice. Donc ça c'était très fort. Alors, moi je me rappelle des premières ventes. Donc d'abord on a commencé à vendre des petites choses, des petits chevaux, des petits trucs comme ça, à l'entreprise même, à ceux qui venaient. Et puis on a eu des invitations à vendre. Et je me rappelle que la première fois, c'était des Young Socialisten à Gand, qui dans cet énorme truc qu'elle vaut Reut, la coopérative, la historique, on voulait organiser une vente de cristaux. Alors moi je me rappelle qu'on avait décidé que je partirais faire cette vente-là, parce que je connaissais un peu les Young Socialisten, Combat et Links travaillaient ensemble. Moi j'avais un papier dans Links tous les mois, et les gens de Links avaient un papier dans Combat tous les mois. Et donc nous sommes partis avec Guy Verbraken qui est mort et Marie-Rose Michigan. L'un était un peu mon chauffeur, parce que moi je ne conduis pas, et l'autre était un peu ma secrétaire, dans le rôle qu'on m'avait donné, c'est-à-dire le responsable de l'agite propre, si vous voulez. La valorisation du conflit, j'avais été admis avec Jean-Paul Lebas pour la CSC, mais on était déjà de l'intérieur de l'organisation syndicale, donc il n'avait pas de phénomène de rejet à notre égard, loin de là. Et nous sommes donc allés à Gand avec ces deux personnes-là, une grosse camionnette, Et il y avait 4000 personnes qui attendaient devant le Vaureuil pour acheter. Bon, j'ai pu, il n'y avait pas de GSM, me précipiter sur un téléphone pour me demander à des camions de venir en renfort.
Et il y avait du stock?
Quoi?
Et il y avait du stock?
Oui, il y avait du stock au Val, ça c'est évident, surtout, enfin du stock. Et aussi, il y avait du second choix dans ce qu'on vendait, etc. Donc c'était une manière de vider les stocks les moins intéressants, à la limite. Enfin, les moins intéressants, les prix étant ce qu'ils étaient, on se préoccupait peu de TVA, 36 trucs. Je veux dire, tout ça était à la limite, pas à la limite de l'honnêteté. L'honnêteté des gens était parfaite au niveau où il n'y avait personne qui se remplissait les poches à titre personnel, hein, je m'entends. Mais on a fait aussi tout de suite du culturel. Dans le château qui n'avait pas encore brûlé, on a fait notamment des expositions de peintres et d'artistes régionaux.
Vous vous rappelez des noms, oui?
Je ne me rappelle pas nécessairement tous les noms. Celui qui se rappellera le mieux, c'est Jacques Deck. Parce que Jacques Deck, D-E-C-K, qui a été directeur du Centre culturel de Serres, puis du théâtre de la Place, et qui est aujourd'hui le Missi Dominici de la communauté française en Afrique, qui pour le moment, je crois qu'il va partir à Haïti. Mais Jacques était donc le responsable culturel de Serres, et il nous a proposé ses services, et j'ai tout de suite dit oui, et ça a été l'affaire de Jacques d'organiser les choses. Et alors,
Exposition
de peinture, mais on a eu qui? On a eu Théodore Akis dans l'entreprise qui est venu chanter, on a eu Catherine Sauvage, on a eu, les artistes qui passaient pouvaient venir, c'était très ouvert. On a eu des tas de gens, je veux dire, ça a duré 6 mois. Donc, ceci dit, les ouvriers ne cherchaient pas prioritairement, nous on cherchait tout. Parce que pour arriver, nous avons établi très vite un rapport de force. Et avec Urbain, nous voulions, sur base de ce rapport de force, essayer de pousser Gaulle à une conclusion. C'était lui le secrétaire d'État à l'économie régionale à l'époque. Hein. François Gilles, qui était majoritaire, parce qu'il avait... S'il y avait les ouvriers, la FGTB avec Léopold Lisette comme délégué principal et quelques autres, se trouvaient très bien dans ce conflit. Ça pouvait durer pour eux. Pour nous, il y avait d'une part le fait que quand on a atteint un rapport de force, il ne faut surtout pas que ça descende. Et deux, il faut un moment... Torres le disait déjà, ça va conclure une grève, avec le meilleur résultat, mais il y a des moments où on est au... Et ici, il a fallu, de manière un peu artificielle, prolonger le conflit par toute une série de choses. Je me rappelle que j'ai invité tous les diplomates en poste à Bruxelles, pas les consuls de Liège, tous les diplomates consuls à Bruxelles, de venir à une journée du corps diplomatique. Et non seulement on a envoyé des lettres à tous les diplomates qu'on est arrivé à recenser dans les annuaires ad hoc, mais aussi à leurs épouses, en laissant entendre qu'il y aura un souvenir qui serait remis. Donc ils se sont précipités pour faire de la gérance de l'affaire intérieure du royaume. Et on a eu, je ne sais pas moi, 150 ou 200 diplomates. Enfin, on a vraiment eu une grosse assemblée de diplomates. Donc on faisait des trucs tout le temps différents, etc. Parfois, il y avait des visiteurs tout à fait étonnants. Moi, je me rappelle un jour, à 7 heures du matin, un monsieur venant avec sa mallette et demandant la permission de vaquer dans l'usine et de discuter avec ceux qui travaillaient. Et il en est sorti à 6 heures du soir, c'était l'évêque Van Zuylen. Qui l'a fait avec une discrétion totale, sans communiqué de presse, sans photo de presse. Sans... Mais le lendemain, les ouvriers m'en parlaient en disant qu'est-ce qui est intéressant, ce type-là, comme il pose des questions justes.
Mais il était présenté, non?
Si, si, c'est
ah,
présenté
oui,
à moi.
Mm-hmm. Bon. Mais les ouvriers savaient.
Ah, oui, les ouvriers, bon, ils disaient, bon. Oui, enfin, certains le savaient, d'autres ne le savaient pas dans un premier temps. Lui, on l'a laissé aller, on ne m'a pas suivi. Moi, je ne m'amusais pas. Bon, Théodorakis, oui, on le suivait dans l'entreprise, mais l'évêque, manifestement, voulait faire ça de manière discrète, etc. Bon, ben, il l'a fait de manière discrète. Mais donc, il y avait des multiples formes. L'organisation des ventes, je dis encore une fois, ces ventes qui avaient donc un double aspect de solidarité et pour certaines
pour
faire la bonne affaire, elles étaient très demandées, très populaires. Et il y avait des gens qui étaient spécialistes. Les Young Socialisten, par exemple, se sont révélés, trouvaient que c'était vraiment quelque chose de bien comme activité, parce que il y avait un côté solidarité avec la gauche wallonne. De leur part, et puis ça réussissait parce que les gens suivaient en Flandre. Hein. Ça a un nom, le Val, c'est pas... Bon. Donc, voilà. Et on a fait des ventes aussi, en France, par exemple. Ça, on a passé des journées à Paris. J'ai entendu vous dire que des gros camions pleins de cristaux, sur le coup de 5h de l'après-midi, au repas de la Concorde, les types paniquaient, mais... Mes ouvriers du Val, hein, puis il fallait aller bouffer avec eux, et puis il y en avait qui voulaient sortir encore la nuit, ça c'était, bon, c'était du folklore. Mais on est allé, je dis, on est allé un peu partout, on a commencé par le journal Le Monde, on est allé à l'UMA, on est allé au siège du PS français, on est allé à Renault-Boulogne-Billancourt, on a fait des trucs emblématiques, et en même temps, Urbain Destré parlait avec Michel Rocard au micro d'Europe 1.